À un moment du film Cocktail, Tom Cruise s'émerveille devant un petit parasol décoratif en papier de ce que l'inventeur du petit objet est probablement millionnaire, et on achète aussitôt son récit sans se rendre compte que le film repose sur une arnaque, en tout cas sur un deal bien plus audacieux que celui-ci, en réussissant à nous passionner pour le destin d'un millionnaire, Tom Cruise, qui rêve de devenir barman. L'Amérique des années 80 est bien le pays du deal, et on n'est pas trop étonné que le Tom Cruise de la période Cocktail et le Donald Trump de l'art du deal soit justement les deux personnages réels que croisent dans American Psycho le douteux esprit du temps, le chimérique Patrick Bateman. Les charlatans m'intéressent, les charlatans, pas les escrocs directement. Ceux qui ont quelque chose d'extravagant à vendre et qui fondent leur fortune sur d'habiles chimères comme les parasols en papier, les costumes sur mesure, les suites plaquées or ou les Mar-a-Lago. Mes grands-parents avaient un ami qui se vantait d'avoir inventé un détachant miracle et qui en aurait vendu le brevet pour s'acheter un petit château. C'était dans mon cerveau d'enfant comme s'il avait découvert la martingale au jeu Chimie 2000 et que le château avait cristallisé seul dans le petit béquet en plastique de ma boîte de jeu, une pure fantasmagorie capitaliste, une fable auquel il m'était impossible de ne pas croire. Un jour, un critique d'art venu, lui, du monde médical, m'a raconté comme on raconterait une blague, comment il avait fait fortune en commercialisant un collier contre les taches en forme de filament qui flotte parfois dans notre champ de vision et qui, à moins qu'on soit un collectionneur de monochromes, sont en général sans gravité. Mais la magie voulut que le collier posséda aussi quelque effet aphrodisiaque sur d'autres muqueuses et le médicament miracle de connaître un succès commercial inattendu. J'ai été un jour invité chez quelqu'un de si riche qu'il avait un ascenseur personnel mais qui resta très vague sur les origines de sa fortune, quelque chose en lien avec le numérique. J'ai découvert en enquêtant que j'avais rencontré le roi de la sonnerie téléphonique et du message de répondeur humoristique, encore mieux que le vendeur de parasols à cocktail. Mon hôte avait régné sur ce marché dont les anciens lecteurs de la presse adolescente se souviennent sans doute, car ses publicités ont longtemps occupé la dernière page de leur magazine préféré pour Jenny in a Bottle de Christina Aguilera, faite le 38-625. Tout cela me ramène inévitablement à l'empereur de l'arnaque, au charlatan en chef, au joueur de flûte de Hamelin de nos démocraties exsangues, à cet homme qui passa de l'immobilier à la télé aux réalités, d'un best-seller sur l'art du deal, à la stratégie du fou, en politique internationale, de la banqueroute à la Troisième Guerre mondiale, Donald Trump lui-même. Quelque chose m'échappait cependant pour accéder à une complète compréhension du personnage. Je n'arrivais pas plutôt à me satisfaire des hypothèses faciles selon lesquelles il aurait été fou, sénile ou méchant. C'est en lisant une série de que j'ai enfin compris à qui on avait psychologiquement affaire, classiquement à un traître. Évidemment, il avait toutes les caractéristiques de l'impétuosité à la mauvaise foi, de la mythomanie à la versatilité des traîtres de comédie. Peut-on se satisfaire cependant d'une série de tweets pour juger d'un homme? Twitter vaut ce qu'il vaut, mais depuis que Trump lui-même lui a attribué une valeur constitutionnelle pour ce qui regarde la déclaration de guerre, un peu à la manière dont les anciens romains déclaraient la guerre à distance en jetant un javelot par-dessus les limites sacrées du pomerium, Twitter est devenu le véritable bureau ovale. Que disait ainsi ses tweets d'un certain Black Moustache, analyste autoproclamé du cas Trump? Que celui-ci était une créature russe depuis beaucoup plus longtemps qu'on croyait, que la seule fonction de ses casinos avait été de blanchir dès l'époque soviétique l'argent mafieux venu du froid, qu'il y a 20 ans, quand il était en faillite, il n'avait été sauvé que par ses amis russes, dont l'un d'eux était entre-temps devenu, après une étrange révolution de palais, le nouveau maître du Kremlin. Je ne sais pas quoi penser de ce récit délicieux, sinon que je le trouve d'une crédibilité infini, mais peut-être est-ce là un effet bien connu du charisme véreux des charlatans de génie de rendre tout ce qui les entoure magiquement crédible, en bien comme en mal.